Dom Théo. Dom Théo, un dialogue théologique avec les dominicains de Toulouse.
Frère Édouard, bonjour.
Bonjour frère Philippe.
Nous avons bien pris le temps de parler du Dieu Tout-Puissant. Depuis notre exploration du catéchisme, le Dieu créateur qui vient dans le catéchisme juste après le Dieu Tout-Puissant a quand même été pris, nous en avons déjà pas mal parlé, la création et la révélation, ce fut un moment important, mais la question de la création et du salut, je trouve intéressant quand on prend, donc à partir de l'article 279 dans le catéchisme, je me rends compte de ce qui est précisé sur les lectures de la nuit pascale. C'est vrai que nous savons que dans la vigile pascale, donc cette prière pendant la nuit où le Christ, notre Seigneur, ressuscite, la vigile pascale, c'est le moment où nous, les croyants, reprennent l'histoire de leur salut et c'est de se la raconter, on a besoin de se raconter. Et cela commence avec récit de création. Je découvre ici que dans la liturgie byzantine, je n'avais jamais fait attention à ça, dans la liturgie byzantine, la première lecture des vigiles, des grandes fêtes du Seigneur, dit le catéchisme, c'est toujours ce récit de la création. Et c'est intéressant de voir que le récit de la création que nous avons, nous, à la vigile pascale, finalement, ça met en relation directe et intime la création et la recréation qui est l'œuvre de salut en Jésus-Christ, notre rédemption.
Le mot « recréation » est très important pour comprendre que le limon initial qui a permis de créer Adam a été comme repris dans le sein de la Vierge Marie, qui est comme une nouvelle terre qui accueille la nouvelle créature parfaite qu'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et dans un beau livre qui est sur l'esprit de la liturgie, le cardinal Joseph Ratzinger, alors qu'il était à l'époque encore théologien sans savoir qu'il allait devenir un jour préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, a remarqué qu'il y a une correspondance autour de la date du 25 mars. Pourquoi ? Parce que dans les traditions très anciennes de l'époque du judaïsme, le 25 mars serait la date anniversaire de la création du monde. C'est amusant.
Ah oui.
Et du coup, évidemment, la recréation ne pouvait tomber aussi qu'un 25 mars. Et donc il y a comme symphonie entre la première création et la nouvelle création.
Avec
l'incarnation du Verbe dans le sein de la Vierge Marie. Fête de l'Annonciation aujourd'hui. D'où on comprend très bien que nous fêtions 9 mois plus tard, le 25 décembre, la naissance de Jésus. Ce n'est donc pas une affaire, je dirais, d'appropriation du culte païen du Sol Invictus que l'on célébrait à Rome, mais c'est plutôt ce Sol Invictus qui a été happé dans ce 25 décembre.
Eh oui.
C'est tout à fait l'inverse, c'est-à-dire que les païens se sont bien retrouvés tout à coup dans quelque chose qui correspondait exactement à leur attente dans cet anniversaire qui passe du 25 mars, nouvelle création avec l'Annonciation, au 25 décembre, l'apparition du Verbe fait chair au moment de sa naissance charnelle, sortant du sein de la Vierge Marie à Bethléem. Donc il y a quelque chose d'extraordinaire de voir que tout se récapitule. Le Nouveau Testament nous aide, dans Éphésiens chapitre 1, verset 16, à rappeler que tout est récapitulé par lui. Et ce rôle récapitulateur du Christ est important à saisir de la création à la recréation. Nous sommes recréés, nous sommes un homme nouveau, dira saint Paul, que ce soit dans l'épître aux Galates ou dans l'épître aux Éphésiens. Et nous sommes une créature nouvelle.
Voilà. Au baptême.
Et voilà. Et c'est ça que nous célébrons toujours. Et c'est pour ça que c'est important de repartir toujours de la création et de ne pas couper notre prédication en partant trop vite sur la recréation, parce que si on ne comprend plus bien ce que c'est que la création, comment comprendrons-nous ce qu'est la recréation ? Et un jour, on avait un de nos théologiens, le père Jean-Hervé Nicolas avait fait une belle synthèse dogmatique sur tous les mystères chrétiens, et etc. Puis on lui a dit, mais dans cette belle synthèse dogmatique, il manque quand même la création. Et alors, il a été obligé d'écrire un deuxième complément sur la création. J'ai trouvé ça sympathique, tout à coup, qu'il s'était aperçu qu'il avait oublié un gros morceau dans sa synthèse dogmatique, c'était la création. Et c'est vrai que nous avons besoin sans cesse de nous y replonger. Nos liturgies sont un lieu catéchétique qui nous aide ainsi à admirer le dessein d'amour bienveillant de Dieu.
La foi chrétienne dans son rapport à la création est parfois bousculée parce que l'histoire a porté différentes, l'histoire, les cultures différentes ont porté diverses positionnements, diverses conceptions de des origines, de ce qui est aux origines. Et je vois que le catéchisme à l'article 285 finalement, on prend la peine de dire les croyants que nous sommes sont face à ces conceptions culturelles, philosophiques, théologiques différentes.
Oui, alors ce qui est étonnant, c'est que ces concepts reviennent régulièrement, si vous voulez. Ce n'est pas quelque chose qui serait seulement une analyse du passé, comme on ferait une histoire de la philosophie avec un Brillé ou un autre, mais sans cesse, ces idées reviennent à l'esprit de l'homme, en particulier le panthéisme, tout est Dieu. Quand vous voyez des personnes qui tombent dans l'antispécisme, qui ravalent toute la créature à la même réalité, comme un espèce de grand tout terrestre dans lequel tout se tiendrait et qui serait gouverné par des énergies supérieures, etc. Il y a quelque chose, un petit goût, si vous voulez, de panthéisme par derrière, qu'on retrouve, ça saupoudre, si vous voulez, c'est l'esprit de nos contemporains. Ou l'idée de l'émanation, moi qui ai souvent des bons contacts avec la communauté juive que j'apprécie beaucoup, il y a des courants qui sont marqués par ces idées de ce qu'on appelle la Kabbale, où il y aurait comme des séphirotes, des sphères, 9 sphères qui émanent de Dieu et qui permettent par le tikkun un retour à Dieu, c'est-à-dire l'effort humain qui lui permet de retourner vers Dieu. Mais l'émanation de Dieu est une pensée qui est contraire à la création ex nihilo. Dieu a tout créé de rien. Il n'a pas créé par une sorte d'obligation intérieure qu'il aurait de faire sortir quelque chose de lui. Il a agi d'une manière telle qu'il est parfaitement souverainement libéral, c'est-à-dire qu'il aurait pu ne pas donner la création, mais il a voulu la donner pour sa gloire. Dieu seul est souverainement libéral, dit saint Thomas d'Aquin, car il n'agit pas en vue de son utilité, mais seulement en vue de sa bonté. Voilà qui donne sens à la création. Tout est fait en vue de sa bonté, en vue de sa gloire. Et cela nous permet de comprendre que cette émanation, eh bien, serait bien périlleuse si nous voyons quelque chose de nécessitant Dieu. C'est gratuit, tout est gratuit. Et puis, il y a des tendances qui ont oublié que Dieu était tout-puissant et qui ont opposé deux principes, le bien et le mal, dans le manichéisme. Et nous connaissons dans les régions toulousaines eh bien, des tendances qui, bien sûr, peuvent être reprises par des courants comme ce que l'on appelait les bons hommes, les bogomiles, qui avaient tendance à opposer un dieu du mal à un dieu du bien. Et ces pensées dualistes qui opposent lumière et ténèbres, eh bien, sont contraires à la foi qui affirme qu'il n'y a qu'un seul principe à toute chose, c'est Dieu. Y compris les puissances infernales sont soumises à Dieu. Dieu a puissance sur le tout. Et puis il y a d'autres courants, les courants gnostiques ou les courants qui ne font de Dieu qu'un maître horloger, le déisme. On pense à Voltaire, à Rousseau, tout le courant des Lumières, qui finalement n'ont plus vu qu'un dieu assez éloigné, un dieu qui donnait la première pichenette à la création, puis après ça, elle se déroulait par elle-même, hein, comme une sorte d'efficience originelle, mais sans tenir compte d'un dieu qui n'est pas seulement efficient, mais qui est aussi orientant vers la finalité et donnant un modèle. Il nous a donné un modèle, c'est Jésus-Christ. Donc ce n'est pas purement un déisme auquel nous croyons à quelque chose de beaucoup plus grand. Et même le théisme de nos révolutionnaires, avec une liturgie qui était faite vis-à-vis de la déesse raison, tout cela, c'était un retour à une certaine conception païenne. Et puis le matérialisme, qui est très fréquemment développé, surtout depuis les accents communistes qui ont frappé notre 19e siècle depuis Marx, et qui ont fait qu'il n'y avait plus que la matière, finalement. On ne croyait plus qu'en la matière. Ça a été assez terrible, cette période qui a éloigné l'homme des réalités hautes, élevées, transcendantes de l'esprit, puisque même les communications entre les hommes pouvaient être analysées matériellement. Hein, et donc il y avait comme le sentiment que tout était matière. Et ça, c'est terrible parce que l'esprit est comme à ce moment-là réduit à un mécanisme empirique. Il n'y a plus place à Dieu qui est esprit. Et Saint Jean nous le dit dans ce grand passage de la rencontre de Jésus avec la Samaritaine, Dieu est esprit.
En tout cas, cela nous rappelle bien, nous terminerons maintenant pour aujourd'hui, que l'homme a ce désir, a cette quête de trouver où sont ses origines, et la foi nous conduira à dire que la raison peut aller chercher cela, peut trouver cela, et la foi va apporter, va compléter cette quête.
Cette quête, oui. D'où venons-nous? Où allons-nous? Quelle est notre origine? Quelle est notre fin? Ce sont des questions immémoriales qui sont toujours là dans le cœur de l'homme.